Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Ce dimanche, dimanche de l'Épiphanie, sera sous le signe de l'ordination de quatre nouveaux évêques, parmi eux le secrétaire particulier du pape Georg Genswein et Mgr Nicolas Thévenin, qui, nommé nonce, partira pour le Guatemala. Dans ce magazine, nous parlerons aussi de la délégation d'évêques catholiques occidentaux qui visitera la Terre Sainte, comme chaque année. Nous aborderons la situation de la Centrafrique, où la situation reste là très tendue, avec un risque de crise humanitaire, le témoignage de l'archevêque de Bangui. Un missionnaire combonien a par ailleurs été arrêté et malmené dans le nord-est de la RDC. Et puis nous retrouverons Sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu, l'ouvrage de cette semaine, Héroïne de Dieu, l'épopée des religieuses missionnaires au XIXe siècle. Enfin, le commentaire de l'évangile de ce dimanche, donc de l'Épiphanie, ça sera avec le Père Montavi. Ce dimanche, Benoît XVI ordonnera donc quatre nouveaux évêques. Parmi eux, son secrétaire particulier, Georg Genswein, nommé le 7 décembre dernier préfet de la maison pontificale. Les trois autres évêques seront l'italien Vincenzo Zanni, récemment nommé secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, Mgr Fortunatus Wachukwu, un prélat nigérian, ancien chef du protocole de la secrétaire d'État du Saint-Siège, nommé nonce au Nicaragua, ainsi que Mgr Nicolas Thévenin, un Français. Le 15 décembre dernier, le pape a nommé ce haut responsable de la curie romaine nonce apostolique et la destination de ce diplomate du Saint-Siège est connue depuis ce samedi. Mgr Thévenin partira pour le Guatemala. Par ailleurs, le pape a nommé ce samedi Mgr Jean-Paul Gobel, nonce apostolique en Égypte et délégué du Saint-Siège auprès de l'organisation de la Ligue arabe. Il était depuis 2007 nonce apostolique en Iran. Je vous le disais dans le sommaire de ce magazine, une délégation d'évêques catholiques occidentaux devait s'envoler pour la Terre Sainte ce samedi. Ils proviennent du Canada, d'Espagne, des États-Unis, d'Allemagne, de France, d'Angleterre ainsi que du Pays de Galles et d'Islande. Comme chaque année, l'objectif de cette visite est d'exprimer la communion de l'Église universelle avec les communautés chrétiennes de Terre Sainte et de renforcer les espoirs de paix dans la région. Avant de rallier Bethléem, lieu de son séjour, la délégation sera dimanche et lundi en Jordanie pour rencontrer des réfugiés irakiens et syriens. À cette occasion, les évêques s'entretiendront avec Mgr Maroun Laham, vicaire patriarcal pour la Jordanie. Nous l'écoutons nous parler de cette mission, mais avant, il revient sur l'année 2012 qui vient de s'achever, une sorte de bilan.
Au niveau ecclésial, il faut dire que moi je suis arrivé fin février à Amman, je venais de Tunis, et donc cette année pour moi était une année de découverte de l'église de Jordanie, avec ses paroisses, ses écoles, ses institutions, ce mouvement de jeunesse, etc. Et pour moi, ça a été une surprise de voir qu'après avoir quitté la Jordanie pendant 25 ans, comment l'Église s'est vraiment développée et les paroisses ont explosé littéralement. Pour moi, ça a été une grande consolation pastorale. Donc pour le pays a connu pendant cette année 2012 quelques soubresauts d'ordre politique et puis d'ordre du printemps arabe, quoi. Il faut savoir que le vent du printemps arabe n'a pas épargné la Jordanie. On a eu des problèmes, le gouvernement a changé 6 fois pendant un an. Il y a le problème du chômage, il y a le problème de la corruption, il y a le problème de quelques réformes politiques dont la Jordanie a besoin. Et je pense que le roi était intelligent pour absorber ces contestations et ne pas permettre que la Jordanie verse dans des manifestations violentes comme c'est le cas en Syrie ou dans d'autres pays arabes. Maintenant, la chose n'est pas terminée. Fin janvier 2013, nous avons les élections parlementaires. Et pour la première fois en Jordanie, évidemment, il y aura des élections avec des observateurs internationaux qui sont déjà arrivés. Et puis, on aura un gouvernement formé par le parti de la majorité et non par le roi directement comme c'était le cas avant. Donc, on attend pour voir d'abord le résultat de ces élections et puis pour voir un peu quelle est la marge de liberté qui sera donnée à ce parlement et s'il est capable ou pas de faire les réformes dont la Jordanie a besoin. Tout est à attendre et à voir pendant 2013.
Le problème des réfugiés syriens est-il si grave pour la Jordanie? On a vu il y a deux jours que le gouvernement libanais était très divisé sur la question des réfugiés syriens présents sur son sol. Quelle est de ce point de vue-là la situation en Jordanie?
Alors, la Jordanie, comme pays limitrophe de la Syrie, ne peut pas fermer ses frontières contre les réfugiés syriens, surtout lorsqu'ils arrivent avec des conditions humaines vraiment lamentables. Là, il faut savoir que la Jordanie est un pays pauvre et que la Jordanie est le quatrième pays plus pauvre au monde en eau. Déjà, on a des réfugiés palestiniens, on a des réfugiés syriens, on a des réfugiés irakiens et on a 1 million d'Égyptiens qui travaillent en Jordanie. Ça fait trop pour la Jordanie. Ça fait trop pour un petit pays qui n'a pas de ressources naturelles. Humainement parlant, et comme voisinage, puis comme sentiment arabe, on ne peut pas dire non. On peut pas dire non. Je sais qu'il y a des aides qui arrivent ici et là, mais pour la Jordanie, ça commence à devenir un fardeau. Surtout lorsque parmi ces réfugiés, il y a quelques infiltrés qui sont venus pour faire des ordres puis des contestations. Ces gens-là, dès qu'on les découvre, on les rapatrie immédiatement. Donc, la Jordanie est entre deux feux. Déjà, ses possibilités limitées, et puis le devoir d'hospitalité, et puis de voisinage arabe, etc., qui ne peut pas fermer la porte devant des familles qui nous arrivent avec des conditions humaines lamentables.
Partons pour l'Afrique face à la situation toujours très tendue en Centrafrique. L'Église catholique du pays a lancé différents appels à la paix. Les évêques demandent que le chemin des négociations prévale sur la voie militaire. L'Église dénonce par ailleurs les violences à l'encontre des civils. La préoccupation continue à Bangui face à l'avancée des rebelles de la coalition Séléka. Parmi les personnalités à appeler au dialogue, l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzampalanga, nous l'écoutons parler de la situation.
Ce n'est pas par les armes que nous pourrons résoudre nos problèmes. Et nous avons lancé cet appel, et je le réitère, que tous les belligérants puissent se laisser gagner par la raison. Pour que la paix revienne dans les cœurs, revienne dans nos pays, et que les uns et les autres puissent travailler ensemble pour le relèvement de ce pays.
Les rebelles sont en train d'avancer à nouveau vers Bangui. Est-ce que dans la capitale, vous sentez une certaine préoccupation?
Maintenant, avec l'avancée des rebelles et tout, il est possible, et je pense que les gens vont encore repartir. Il va y avoir des angoisses, la peur qui pourra gagner les gens pour disparaître de la ville.
L'inquiétude se manifeste par des départs?
Oui, l'inquiétude se manifeste par des départs. Parce que juste en face, la ville Congo démocratique, nous avons beaucoup de Centrafricains qui ont traversé. Et il y a certains qui sont dans la brousse, il y en a qui ont préféré aller au loin pour éviter les zones d'affrontement. J'espère que les gens de Séléka qui m'écoutent penseront à la souffrance de ce peuple-là, qui vont venir apporter leurs différends et les autres pourront examiner. Parce que l'heure est maintenant aux retrouvailles pour mettre carte sur table tous les problèmes qui ont miné ce pays et qui ont détruit ce pays pour essayer de reconstruire. Si nous continuons à détruire, demain ça sera pire encore.
Et face à l'enlisement de la situation en Centrafrique, le Conseil de sécurité de l'ONU demande aux belligérants de négocier de bonne foi et sans conditions préalables lors des discussions qui doivent s'ouvrir le 8 janvier à Libreville. L'UNICEF a par ailleurs demandé vendredi aux différentes parties de ne pas enrôler d'enfants soldats dans leur rang. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, un nombre croissant d'enfants sont en effet recrutés par les rebelles, mais aussi par les milices pro-gouvernementales dans le pays. La situation en Centrafrique est suivie de très très près par le Saint-Siège. Le cardinal Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, a envoyé un message de proximité, de solidarité aux évêques du pays, aux fidèles, donc de République centrafricaine. Message dans lequel il assure que le dialogue est le seul moyen efficace pour le rétablissement d'une paix durable. Afrique toujours, un missionnaire combonien a été arrêté et malmené dans le nord-est de la RDC. Le père Franco Laudani, italien d'origine sicilienne, est chargé de la pastorale des pygmées dans le diocèse de Wamba. Depuis des années, il s'efforce de venir en aide à cette minorité exclue de la société congolaise et retranchée dans la forêt équatoriale. Il s'occupe en particulier de la scolarisation des enfants. L'incident s'est produit jeudi matin alors que le père Franco préparait avec d'autres membres de la communauté la fête des Pygmées, qui doit être célébrée le 13 janvier. Sur sa route, il a rencontré une colonne de prisonniers arrêtés par les militaires dans le cadre de la lutte contre le trafic d'ivoire. Parmi eux se trouvait un animateur des Pygmées ainsi que des femmes et des enfants. Le père Franco a demandé des explications. Ces questions ont d'abord été accueillies par des injures, puis un peu plus tard, l'arrestation et les coups sous l'accusation d'intelligence avec les ennemis et de haute trahison. Les membres de la société civile qui l'accompagnaient ont été eux aussi roués de coups, mais ils ont pu s'enfuir. Après une intervention de la communauté catholique locale, le père Franco a été libéré sous caution, mais son passeport lui a été retiré. Et retrouvons à présent sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu. L'ouvrage de cette semaine, Héroïne de Dieu, l'épopée des religieuses missionnaires au XIXe siècle et l'histoire étonnante et méconnue de ces religieuses françaises qui partirent par milliers à travers le monde il y a quelque 200 ans. Avec cornette et chapelet pour seul passeport, elles ont traversé les océans, affronté les jungles et les déserts, partagé la vie des indigènes, comme on les appelait à l'époque, de tous les continents, guidées par la foi et par leur désir d'aventure, leur liberté et leur immense capacité à s'adapter et à aimer. Interrogée par Catherine Aubin, Guillemette de Laborie nous présente son livre coécrit avec Agnès Brault. L'auteur est convaincu que la découverte de ces humbles religieuses, véritables pionnières, peut nous éclairer aujourd'hui encore.
Guillemette de Laborie, le titre d'un de vos derniers livres, Héroïne de Dieu. Pourquoi ce titre? Qui sont ces héroïnes?
Les héroïnes de Dieu, ce sont des femmes, parmi d'autres, que nous avons choisies de façon totalement subjective parmi une infinité de femmes remarquables. Ces missionnaires qui, au cours du XIXe siècle, sont parties de France à travers le monde. Elles ne connaissaient rien du pays où elles allaient, mais avec toute leur énergie, avec toute leur foi, elles ont réussi à déplacer les montagnes, c'est-à-dire à créer un peu partout dans le monde des choses qui existent encore. Et on est parti d'ailleurs de ce qui existe encore de leur passage.
René Raymond, l'historien que vous citez dans le prologue, dit « C'est une aventure unique, celle de ces missionnaires, sans aucun équivalent dans l'histoire du monde, ni celle d'aucune religion. Et en plus, c'est une spécialité française. »
Oui, ces missionnaires françaises sont très nombreuses, elles sont presque la moitié de celles qui sont parties à travers le monde. On s'est posé la question de savoir pourquoi. Et ça correspond à une période de la chrétienté française, après la Révolution et la fermeture des couvents des grands ordres, s'est levé tout un peuple de femmes, souvent issues de la nouvelle bourgeoisie, dont l'esprit d'entreprise, dont l'énergie, l'argent aussi, a servi à monter ces projets.
Et d'ailleurs, vous dites, il y en a, tout au long de ce 19e siècle, une Française sur 100 est partie.
C'est une Française sur 100 qui rentre au couvent. Parmi elles, beaucoup partiront à l'étranger parce que justement, celles qui partent écrivent. On a des trésors de lettres. Ça faisait partie de leur mission de raconter ce qu'elles vivaient pour susciter des vocations, pour réunir des fonds pour la mission. C'est la première génération, il ne faut pas oublier, qui sait lire et écrire. Donc nous avons des récits extraordinairement bien documentés, très concrets, qui racontent ce qu'elles font et pourquoi elles font. Et ce que ces femmes ont d'extraordinaire, c'est qu'elles savent qu'elles ne verront pas le résultat de leur travail. Elles savent qu'elles sont le petit grain qui est planté et que d'autres générations plus tard feront la moisson, mais elles le font avec toute leur générosité. Il faut se rappeler que c'était toujours des aventures collectives. Ces femmes ne partaient pas seules, elles partaient à plusieurs et elles avaient été formées au travail d'équipe, à l'esprit d'équipe. Elles, chacune à leur manière, sont véritablement des personnalités fortes parce qu'il en fallait pour affronter des voyages éprouvants, très longs, des conditions de vie extrêmement difficiles. Elles ont tenu au sens propre du terme et elles ont semé à leur manière chacune. Et c'est un petit peu ça que nous avons voulu exhumer de l'histoire. Parce qu'elles ont quelque chose à nous apprendre aussi, ces femmes-là, aujourd'hui.
Et elles ont quelque chose à nous apprendre. Quelle est votre conviction profonde ?
Que derrière le vocabulaire un peu désuet, derrière les erreurs théologiques aussi, ces femmes-là avaient une foi réelle, une énergie, une générosité, une gaieté aussi. C'est très drôle, souvent elles sont très drôles. Elles prennent ce qui leur arrive avec justement l'humour nécessaire pour tenir longtemps. ces femmes-là ont à nous apprendre quelque chose de la possibilité de changer le monde.
Une des convictions de votre livre, c'est que les femmes ont été absolument souples par rapport à l'inculturation.
Elles sont concrètes, les femmes. Elles rentraient chez les femmes, voyaient les besoins, même si leur foi a toujours été première dans leur démarche. Elles ont construit des écoles, des dispensaires. Elles ont mis en place des choses qui existent encore. Partout où elles sont passées, il reste une trace de leur présence. Ce sont les premières militantes de la promotion féminine. Ces religieuses ont choisi leur destin, ont créé des entreprises, ont exercé leur liberté et que ce sont des modèles tout à fait intéressants pour les femmes d'aujourd'hui aussi.
Et c'est maintenant le moment de passer aux commentaires de l'évangile de ce dimanche, dimanche de l'Épiphanie, évangile selon saint Matthieu 2, 1, 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Écoutons le commentaire du père Pascal Montavis.
Aujourd'hui, nous fêtons l'Épiphanie, c'est-à-dire l'apparition de Jésus dans le monde. Jésus se manifeste aux humbles comme aux savants, aux juifs comme aux païens. Cet évangile nous dévoile donc qui est Jésus. Plus précisément, trois affirmations sur Jésus et sur la manière dont Dieu se révèle sont au cœur de l'Épiphanie. Tout d'abord, alors que Jésus est sur le point de naître, Dieu atteste que c'est lui le Messie attendu. C'est Dieu le Père qui guide toutes choses et c'est sa volonté que son Fils vienne parmi les hommes. D'une part, il le manifeste aux bergers en envoyant un ange. D'autre part, il le manifeste aux savants en leur donnant de reconnaître l'étoile du Sauveur. Avant même que Jésus ait commencé à prêcher, c'est donc le Père qui témoigne de la venue de son Fils. Dieu se révèle progressivement à son peuple depuis Abraham. Aujourd'hui, il le fait en plénitude, en montrant au monde entier qu'il a envoyé son Fils au milieu des hommes. Ensuite, par le dialogue entre Hérode et les rois mages, cet évangile annonce plusieurs vérités fondamentales. En premier lieu, Jésus sera bien celui qui amène la division. La naissance de Jésus elle-même divise. Hérode veut tuer ce nouveau-né, les rois mages veulent l'adorer. Jésus divise car il conduit chacun à se situer pour ou contre lui. En second lieu, tout concourt au plan de Dieu. Hérode connaît le lieu de la naissance du Messie, Bethléem. Les rois mages en connaissent la date par l'étoile qui leur est apparue. Et c'est Hérode lui-même, celui qui veut tuer Jésus, qui indique aux rois mages où ils doivent aller l'adorer. Hérode, contre son gré, permet aux Écritures de s'accomplir. En troisième lieu, cet événement marque la royauté de Jésus sur les Juifs et les païens. Hérode, un Juif de fraîche date, tremble pour son trône et les rois mages, des païens, viennent se prosterner. Enfin, la véritable identité de Jésus nous est dévoilée par l'offrande des rois mages. L'or manifeste que Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Sa royauté dépasse les royautés passagères que représentent celles des rois mages. L'encens montre que Jésus est grand prêtre. Jésus a un sacerdoce immuable. Il est capable de sauver de façon définitive ce qui s'avance vers Dieu. La myrrhe annonce sa mort et sa résurrection. Les rois mages posent en effet un geste prophétique. La myrrhe est normalement offerte pour une sépulture. Et c'est bien ce que comptaient faire les saintes femmes le matin de la résurrection lorsqu'elles se rendent au tombeau. Dans ce nouveau-né, la mort est déjà annoncée, car c'est par sa mort que nous renaissons à la vie. En cette fête de l'Épiphanie, nous sommes donc appelés à faire un choix. Nous pouvons suivre Hérode qui a peur de perdre sa royauté, ses richesses, ou les rois mages qui viennent l'adorer. Si nous suivons les rois mages, alors nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que j'offre à Jésus ? Quel est l'or, l'encens ou la myrrhe que je suis appelé à déposer à ses pieds ?» comme signe d'amour et d'obéissance.
Ainsi prend fin ce magazine. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.radiovaticana.va et sur Facebook à l'adresse Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain, où que vous soyez.